Plus avec quelques invités, comme on a eu les autres fois, même si c'était par téléphone.
Et aussi, j'essaye d'avoir des gens par téléphone comme ça, mais c'est pas toujours facile.
Ouais, puis on a eu aussi une personne présente la dernière fois pour l'interview, c'était plutôt cool aussi.
On va essayer de renouveler ça, d'avoir toujours des interviews. Là, pour l'instant, on s'y tient, on a au moins une interview par émission. Ce sera le cas ce soir, puisqu'on aura l'interview de Julien Blondel pour Dark Souls. Et puis, on va avoir plein de trucs à parler. J'avais un petit truc à parler avant, un petit sujet d'actualité. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait partie, et je fais toujours partie, du Festival de bande ciné d'Angers. Et il y a une petite actu en ce moment autour du festival, et puis autour d'une autre BD de manière plus générale. Est-ce que tu as entendu parler du Spirou et la Gorgone Bleue, Fabien?
Non. Désolé.
Alors, c'est un Spirou qui est sorti au mois de novembre de l'année dernière, sauf si je me trompe pas, qui a été créé dans la collection Le Spirou 2, donc où les éditeurs, les éditions Dupuis laissent la main à d'autres auteurs en fait que les auteurs de Spirou originaux de décliner une aventure de Spirou à leur sauce. Donc là, c'était Le Spirou de Yann et Dany, donc scénariste et dessinateur. Et il y a tout juste une semaine, je crois, pas beaucoup plus, il y a une petite polémique qui est sortie, puisqu'il y a des personnages qui sont des personnages noirs, qui sont un faciès de singe, en fait, dans l'album, chose qui ne passe pas du tout en 2024.
Ok.
Donc, Dany étant l'auteur de l'affiche du Festival NGB de cette année, eh ben, ça a posé pas mal de questions, pas mal de questionnements. Est-ce que l'affiche sera conservée? Est-ce que l'affiche sera pas conservée? Est-ce que Dany va venir? Est-ce que l'exposition qui était prévue sera maintenue? Je laisse le festival répondre. Moi, j'ai eu des petites brides, hein, parce que du coup, j'ai des oreilles indiscrètes. Mais voilà, c'est un petit problème qui est quand même assez important en ce moment.
Ok, bah tu vois, j'en avais pas du tout entendu parler. Après, je suis pas au fait de beaucoup de choses non plus, j'avoue. Mais oui, je peux comprendre que ça puisse poser problème. Surtout... en ce moment, et avec tout ce qui peut se passer.
Voilà.
Et avec l'évolution des choses aussi. Pardon.
Moi, je me suis posé la question, ce soir, en fait, de discuter avec toi, et puis peut-être d'avoir d'autres intervenants, et d'ouvrir un débat sur qui est responsable de ça. Est-ce que c'est des responsabilités partagées? Est-ce que c'est la faute du dessinateur d'assumer de dessiner ça? Est-ce que c'est la faute du scénariste de demander de dessiner ça? Est-ce que c'est la faute de l'éditeur qui a vu cet album, forcément l'a relu et a laissé passer ça? J'ai tendance à dire que c'est les torts qui sont partagés.
Oui, sûrement, parce que à mon avis, bon, il y a personne qui a dû dire d'un seul coup non, qui a dû être choqué. Après, j'ai pas le contexte de comme je l'ai pas vu ni lu, donc c'est difficile aussi.
Plus, hein.
Donc c'est vrai que après, faudrait voir comment c'est retranscrit. Est-ce que vraiment c'est dégradant ou pas? De quel contexte? Après, c'est toujours pareil. Or, en étant hors du contexte, et des fois, il faut faire attention. Il y a des personnes qui peuvent partir très rapidement, alors que remis dans le contexte, ça peut aussi se justifier ou pas du tout. C'est pour ça que là, j'y vais avec des pincettes sur ce genre de sujet, tant qu'en plus on n'a pas de nous-mêmes vu les choses. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est de plus en plus compliqué ce genre de choses, et on sait que ça peut être amené à polémique. Donc, est-ce que il faut des fois ne pas du tout y aller parce que pour pas subir ce genre de choses, ou au contraire des fois se dire on fait exprès entre guillemets pour attirer sur certains points, ce qui peut amener un débat. C'est voilà, ça dépend après de quelle manière c'est fait. Là, vu que j'ai pas vu ni lu, c'est plus délicat de se prononcer sur ce cas-là.
Ouais, je suis un petit peu comme toi, parce que du coup, j'ai pas lu l'album, j'ai juste vu les cases et puis ce que beaucoup de gens ont dit autour de ça, et du coup, c'est un petit peu dur de savoir si c'est volontaire ou pas. Visiblement, c'est pas le sujet de l'album, donc c'est pas une critique. Donc
ouais.
C'est un petit peu maladroit, très certainement. Mais bon, ça vaudra le coup que j'essaie de le lire.
Oui, c'est sûr, pour se faire un avis vraiment à soi, en essayant de mettre de côté un peu ce qu'on peut entendre ou pas, et puis après, de se faire sa propre critique des choses, quoi. C'est vrai que ça peut être intéressant, surtout sur ce genre de sujet, quoi.
Sachant que ça va être un petit peu plus compliqué de se procurer l'album si vous ne l'avez pas déjà, puisque, bon, ok, ça fait un an qu'il est sorti, mais maintenant il est retiré des ventes suite à la demande des éditions Dupuis.
Ok, mais c'est là où c'est aussi assez étonnant, c'est pourquoi d'un coup, au bout d'un an, c'est toujours ça qui peut être un peu parfois surprenant, et que ça soit pas dès la sortie que ça ait posé problème, ce qui aurait pu être le cas aussi.
En fait, moi, ça m'a fait me poser plusieurs questions, puisque le point d'alerte, c'est visiblement un TikToker qui a lu l'album et qui dit « Ah là là, c'est complètement inadmissible », et c'est monté très très vite. Mais un Spirou, c'est forcément critiqué par beaucoup de journalistes. Alors, moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu l'occasion de lire le Spirou à sa sortie. Mais ça a dû passer dans de nombreuses mains d'experts qui n'ont pas vu le problème, qui ne l'ont pas relevé. Après, j'en discutais, ça nous fait un petit sujet de discussion, mais je ne sais pas si toi, ça te fait le même effet. Des fois, il y a des choses qui peuvent être choquantes pour certaines personnes dans des mangas, qui, moi, me passent complètement au-dessus. On a discuté avec une amie qui est très, très fan de manga. Par exemple, moi, un manga où il y a des plans culottes, des fois, je les vois juste pas, parce que mon regard s'arrête pas dessus.
Oui, je suis un peu pareil. Moi, je m'en rends pas spécialement compte, j'y prête pas attention. Alors après, sauf si c'est toutes les deux pages, et
oui,
là, ça devient trop, et tu te dis, c'est bon, on passe à autre chose, c'est sympa, mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à pas trop me focaliser là-dessus, et à passer outre, de manière générale.
Et de la même manière, là, c'est peut-être aussi un effet de mémoire, mais des mangas que je laisse lire ma fille, je me rappelais pas qu'il y avait certaines scènes très violentes, parce que pour moi, elles n'étaient pas forcément violentes à mon niveau. Donc je pense qu'il y a le ressenti de chacun.
Il y a le ressenti, il y a la façon de voir les choses, son âge aussi, qui fait qu'on voit plus ou moins les choses, comme tu dis, hein, des choses qu'on a lues plus jeunes, qui nous ont pas spécialement choqués ou traumatisés, entre guillemets, et qu'on lit maintenant, on se dit, ça faudrait peut-être pas que je le fasse lire à mon enfant. Ah oui, mais moi je l'ai lu, mais en fait, ça m'a pas marqué ni rien. On n'a pas le même regard d'enfant que d'adulte. On est tous différents, donc on a des sensibilités qui peuvent être heurtées par des choses, et certains, ça va être un plan culotte, d'autres ça va être un suicide, d'autres ça va être une tête qui éclate. Voilà, on est tous différents selon les sujets et notre vécu, donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de savoir ce qui va plaire ou pas, déjà, et ce qui va choquer ou non.
C'est clair. Vaste sujet.
Oui.
Fasse beaucoup de débats comme ça, inviter des experts, je pense que
ça pourrait être super intéressant.
Ça pourrait être super intéressant. Ouais. Je sais pas si j'ai le niveau, justement, c'est ça le problème.
Non, mais après, en tant que... On va dire les laisser leur poser des questions et à eux de nous expliquer les choses, et ça peut être super enrichissant. Mais...
Ouais, il faut que je trouve des gens comme ça. Si vous avez des sujets en termes de BD ou même des sujets qu'on peut trouver dans de la BD que vous voulez aborder, n'hésitez pas. Je pense qu'on peut trouver des BD pour aborder plein de sujets. De toute façon,
oui,
des BD sur tout.
C'est ça, il y a de tout.
D'ailleurs, une petite question. Selon toi, c'est quoi une BD? Alors, comics, manga, franco-belge. Qu'est-ce qui fait qu'une BD est une BD?
Pour moi, c'est un dessin qui raconte une histoire. Pour moi, ça se résumerait à ça.
Et est-ce qu'il y a des éléments qui doivent être mentionnés pour que ce soit une BD et pas juste un dessin, un livre d'images, par exemple?
Moi, j'ai envie de dire que non, pas trop. Après, quand même, peut-être le système un peu de cases quand même, malgré tout, avec voilà des cases du découpage, un peu de découpage pour narrer l'histoire. Mais sinon, à part ça, oui, pour différencier un peu des livres de tout petit où on a tout sur une seule page avec la grosse image. Ouais, voilà. Moi, je dirais ça. Quelques cases découpées et puis une narration qui avance au fil de l'eau avec des illustrations.
Eh bien, figure-toi que c'est une question que je me suis posée en lisant l'ouvrage dont je vais parler tout de suite, « Journal d'un naufragé » publié chez Alpha aux éditions Dupuis. Dans la collection Alpha aux éditions Dupuis, c'est de Goz, ça s'appelle « 100 jours sur une île déserte ». Je vais te laisser l'ouvrir et tu vas me dire ce que tu vois et tu vas voir pourquoi je me suis posé la question.
Ok, bah je vois tout de suite pourquoi, en effet.
Est-ce que tu veux essayer de décrire comment, ce que tu vois ou ce que tu veux que je fasse ?
Ouais, bah, je vais décrire vite fait, puis tu reprendras la main, mais on voit une sorte d'agenda un peu, c'est-à-dire qu'une page, c'est un jour. Et du coup, avec une illustration et un petit peu de description. Et du coup, pas de cases, pas de découpage. Donc, en effet, hein, c'est à se demander, est-ce qu'au final, c'est une BD ou pas ? Après, faudrait lire aussi un peu pour voir le contenu, pour savoir un peu s'il y a vraiment une histoire ou si c'est que de la description. Auquel cas, là, peut-être que moi, je me casserais peut-être pas ça en BD. Je sais pas.
Eh ben, je vais reprendre la main, du coup. Je vais approfondir un petit peu puisque chacune des images est une découpe d'un bloc. Donc, imaginez, on prend un gros emporte-pièce et on vient découper le sol jusqu'à un certain niveau. On soulève ça, on enlève l'emporte-pièce et en fait, on voit ce morceau-là avec tout ce qui se passe sur les côtés, en haut, en bas, sous terre, voilà. L'ouvrage raconte l'histoire d'un naufragé qui arrive sur une île déserte, un petit peu dans le titre, hein, et on va suivre jour après jour son évolution ce qui se passe sur cette île. Il va découvrir une certaine faune, une certaine flore, il y a plein d'éléments différents, et ça raconte une histoire. C'est là où je me suis posé pas mal de questions, c'est que souvent on se dit qu'en BD, c'est l'art d'une séquence. C'est entre chaque case, il se passe quelque chose, mais on le comprend parce qu'on voit la case d'après. Bah là, la séquence, en fait, elle se suit jour après jour, donc il y a un laps de temps plus long, mais il y a aussi une page, en fait. Dès qu'on tourne une page, c'est comme si on était passé sur une autre case, en fait. Il n'y a pas de bulles, puisque les personnages ne parlent pas, donc c'est aussi un élément BD qu'on a souvent, les bulles. Mais du coup, ça raconte quand même une histoire en dessin. Et ça raconte même plusieurs histoires, puisque donc on a le personnage qui s'exprime en texte, en haut, qui nous explique ce qu'il fait là, ses difficultés, et on a aussi beaucoup de choses qui se passent sur ces cases, puisqu'on a effectivement ce que voit le personnage, puisque c'est, on nous montre son environnement direct, mais on va aussi nous montrer ce qui se passe en dessous ou au-dessus de lui. Et à nous, en fait, de regarder bien attentivement partout pour voir des petits éléments, des choses qui sont pas dites. À un moment, il y a un crabe qui est en train de lire un livre, qui est perdu comme ça. Donc, j'ai été un peu perturbé parce que j'ai eu du mal à considérer que c'était une BD au départ, même si on me raconte plusieurs histoires dedans. Mais c'est hyper intéressant de se dire que c'est une histoire qu'on va pouvoir reparcourir, redécouvrir, et on peut laisser le regard se perdre en fait dans ces cases qui sont bien remplies. Il suffit juste de regarder la couverture. Il y a tellement de choses, ça fourmille de détails. Moi, j'ai trouvé ça super cool en fait.
Ça doit être une bonne expérience quand même. Ça nous sort des sentiers dont on a l'habitude, donc c'est toujours intéressant de tester d'autres façons de narrer une histoire aussi. Et c'est vrai que chaque page, on voit qu'il y a plein de détails, donc on doit pouvoir y passer pas mal de temps quand même, parce que, mine de rien, elle est assez conséquente en plus, la BD.
Ouais, même s'il y a très peu de texte, ça pourrait se lire très vite, mais on se force en fait systématiquement à se poser et à se perdre dans ces paysages, ces décors, et à essayer de comprendre ces différentes histoires, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, et qu'il faut juste voir et percevoir, avant de les comprendre quelques cases plus loin, et les conséquences que ça peut imposer. Et moi, j'ai trouvé ça bien cool. Donc, voilà. Je vais redonner les références. Donc, c'est le journal d'un naufragé, 100 jours sur une île déserte. C'est de Goz. C'est publié chez Alpha. Et ça fait, je sais plus combien de pages ça fait. C'est une collection Veguet Dupuis, ça, on est d'accord. Ça fait 190 pages et on a plusieurs histoires. On a aussi à la toute fin en fait des petits mots sur la façon dont ça a pu être conçu, ça a pu être créé, et les personnages qu'on peut croiser ou qu'on n'aurait peut-être pas vus. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très très cool à voilà à expérimenter. Donc n'hésitez pas, allez-y. Journal d'un naufragé, c'est bien cool. Hop. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale là tout de suite maintenant avec un générique de manga parce que du coup je suis incapable de lire le japonais et que là le titre est en japonais donc je vous propose d'écouter Anno et le générique de Ranma 1/2 la version Netflix. なんだかやっぱの天気気になるあの子も悩みはきっとあるでしょう外で半端な様子がもう漏れもなし頭の中はぐちゃぐちゃさ止まへが行く時間ないの How they speak いけないいけない事柄なんてないからいやる算数ちゃんけんぽんでさあお勇気見えないあいつの胸の内おしゃもな背伸びも気取りもいらないから先輩後輩やんけじゃんけ関係ないいざ尋常に勝負君がもしもその気なら
www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb et on parle toujours de 9e art sous toutes ses formes. Vous venez d'entendre Anno et le générique de Ranma 1/2, un générique qui a certainement un nom mais que je ne suis pas capable de prononcer parce que je ne sais pas lire le japonais et que j'ai pas fait mon boulot comme il faut. Fabien, est-ce que tu as vu Ranma 1/2, la série sur Netflix, toi ou pas?
Eh ben non, j'ai pas encore eu l'occasion. J'avais vu le trailer dont ils avaient fait.
Ouais.
Ça me donnait bien envie parce que ça a l'air bien sympa d'avoir repris et remis au goût du jour un peu les images et tout. Donc, et c'est une chose que j'aimerais bien faire en famille, du coup.
Ben il faut.
Ouais.
Moi, j'ai commencé à la regarder justement en famille pour faire découvrir un manga de mon enfance parce que pour ceux qui sont jeunes, et qui n'ont pas connu le Club Dorothée, nous regardaient Ranma 1/2 pendant le Club Dorothée.
Tout à fait.
Avec un fabuleux générique de Bernard Minet. D'ailleurs, j'ai de la chance que je ne vous l'ai pas mis. C'est un manga qui m'a beaucoup marqué. Tu veux résumer l'histoire? Tu saurais résumer l'histoire rapidement ou pas?
Non, je pense que non, pas correctement. Ça date d'il y a trop longtemps et j'aurais du mal à bien la remettre. Ouais, je te laisse faire.
C'est un manga de Rumiko Takahashi, donc qui est une autrice qui a une aura assez dingue en fait. Elle a fait Lamu,
elle a fait énormément et puis c'est une star, c'est une légende du manga au Japon, clairement. Et puis d'ailleurs autrement qu'au Japon.
Oui,
aussi.
Parce qu'en France, elle a une communauté de fans qui est quand même plutôt hardcore. Hein.
Oui, tout à fait.
Et l'histoire, en fait, c'est celle de Ranma, un jeune garçon qui va être promis en épousailles. Je ne sais pas si le terme est bon, mais à une jeune fille pour rapprocher deux familles, comme ça pouvait se faire il y a de ça très longtemps. Et en fait, Ranma débarque au Japon avec son père dans cette famille, parce que voilà, ce sont les usages de l'époque. Sauf que Ranma, son père et probablement d'autres personnes sont des férus d'arts martiaux et ils ont été dans des sources maudites et dans ces sources maudites, il y a des gens qui sont morts. Donc il y a plus de 100, une centaine de sources, des gens, des animaux qui sont décédés. Et en fait, si tu tombes dans cette source-là, à partir du moment où on te versera de l'eau froide sur la tête, enfin sur le corps, tu te transformeras en la créature qui a pu être décédée dans cette source, précisément. C'est pourquoi Ranma se transforme en jeune fille et le papa de Ranma, Genma, se transforme en panda.
Ouais, c'est trop cool.
Donc, c'est très drôle, ça apporte énormément de quiproquos puisque Ranma est promis à Kanae. Et Kanae est la fille la plus populaire de son lycée à tel point que tout le monde veut absolument se marier avec elle. Donc comme c'est un peu une bourrine, eh ben, elle met des tatanes à tout le monde. Et elle va se retrouver à faire face à un garçon qui peut-être en fait l'intéresse, peut-être pas, mais quand il est mouillé, il se transforme en fille, et peut-être qu'il va avoir autant de succès qu'elle à l'école. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer tous les quiproquos qu'on peut faire avec des changements de sexe. Ça marche trop bien.
Oui, surtout qu'en plus, à l'école, ils ne savent pas que c'est la même personne quand ils changent. Donc forcément, ça amène plein de choses.
Et ça a créé plein de quiproquos. C'est une histoire d'amour avant d'être une histoire de bagarre, et ça marche très bien. Et je vais pas rentrer dans le détail de l'adaptation Netflix, mais ils ont fait du très bon boulot, moi je trouve. Ça marche très bien, c'est très drôle, c'est très frais. Le dessin, il est franchement cool. Ils ont gardé, alors je me rappelle pas du manga papier, moi, s'il y avait autant de scènes de nu ou autant de choses comme ça, mais ils arrivent à faire des scènes naturelles, puisque Ranma, en fait, c'est un garçon où il pourrait passer torse nu, sauf que quand il est transformé en fille, il est torse nu, pareil. Mais voilà, il y a des seins. Et ben en fait, on a des formes, mais on n'a pas de détails. C'est une silhouette et ça passe tout seul et ça marche pas tout pareil. Donc ça marche.
Oui, et puis sachant qu'en plus il y a toujours l'effet comique dans Ranma 1/2. Donc du coup, moi je l'ai pas vu, mais s'il y a pas les formes et tout ça, on passera outre et on va avoir le côté humoristique qui va prendre le dessus de toute façon. Et on va passer, je suis sûr, un super moment parce que de toute façon. On adorait, nous, quand on était jeunes, et il n'y a pas de raison que ça change.
C'est blindé d'humour, c'est de l'humour de situation, c'est de l'humour de contexte. Il y a beaucoup de bagarres, et des fois, il y a des blagues de bagarres. C'est dur à résumer, en fait, tout ça. Moi, ma blague qui me fait le plus marrer, et c'est celle qui fait le plus marrer aussi ma fille, c'est que le père de Ranma passe plus de temps déguisé en panda, enfin, sous sa forme de panda, sauf qu'en forme de panda, il ne peut pas parler. Donc il sort des pancartes avec les trucs qu'il y a dessus. C'est juste une blague nulle, mais qui marche trop bien. Enfin voilà, je sais pas comment l'expliquer.
Ouais, non, mais de toute façon, faut regarder. Pour ceux même qui connaissent pas, ça permet quand même de découvrir un pan qui est important du manga, mine de rien, parce que ça fait
une
partie
culte,
d'une œuvre culte, ouais, tout à fait. Ouais.
Faites-vous au moins un épisode ou deux. Essayez de regarder la bande-annonce si vous voulez. Ça vous donnera peut-être envie. Mais c'est... ça se savoure en fait. Là, ils sortent un épisode par semaine. Moi, j'apprécie en fait qu'on ne sorte pas des gros batchs comme ça, parce que je considère que attendre un épisode permet d'avoir plus d'affect avec les personnages qu'on regarde plutôt que de se baffrer un gros batch de 26 épisodes d'un coup, ou 13 épisodes, ça dépend, parce que maintenant 26 épisodes, ça se fait moins. Hein.
Oui.
Mais j'apprécie en fait quand on nous sort des séries comme ça au compte-gouttes. Puisqu'on mérite notre épisode, en fait.
Ouais, c'est sûr. Après, c'est des épisodes de combien de temps qu'ils ont fait, là?
Ça fait 26 minutes. Hein,
ouais, 26 minutes, c'est court.
Ouais. Donc, c'est dur. Je revérifie, je suis pas sûr de la durée, mais c'est des épisodes qui sont quand même assez courts, ils dépassent pas la demi-heure. Hein, donc,
ouais, c'est ça. Donc là, ouais, deux par deux, à la limite, là. J'espère que ça va.
Vous pressez pas, hein, parce que là, ils sont rendus qu'à 5 ou 6, je crois. Donc,
Ok.
Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà, allez-y, c'est trop bien. Hop. Bon. Moi, je parle, mais Fabien, il vient là, il a des trucs à raconter aussi.
Oui, tout à fait.
De quoi tu nous parles ce soir?
Eh ben, ce soir, je vais vous emmener explorer la faune abyssale.
Ok, ouais. Mais juste après, le générique.
Nani? omae wa mou shinde iru.
On est toujours on est non, c'est génial. C'est, bon. Il y a une caméra bientôt dans le studio, on vous montrera ce qui se passe pendant qu'on met les génériques. Parce qu'on continue à discuter puis on oublie que vous êtes là.
C'est ça, on oublie voilà. La fin du générique et du coup on se retrouve. Ah bon.
Non, on mentionnait en fait parce que il y a One Piece dans ton générique et il y a une pause de 6 mois en fait qui va se faire là dans One Piece, donc ça permettra aux gens de rattraper. Il y a des gens qui ont calculé que si tu regardes 6 épisodes par semaine, enfin par jour pendant 6 mois en fait, tu es capable de rattraper tout One Piece depuis le début.
OK.
Voilà, il y a des gens qui ont que ça à faire.
Ouais, bah, ça fait quand même ça fait 2 heures de One Piece par jour. Bon. Ça peut se faire mais il faut être motivé quand même.
Ouais.
Mais après ça peut être une façon de rattraper et de se dire pendant la pause au moins j'en ai pas d'autres en retard.
C'est clair. Allez, tu nous parles d'Abyss, c'est ça?
Ouais, donc du coup là je vais vous parler de Deep Sea Aquarium Magmel. Donc c'est une série qui est éditée chez Vega Dupuis, qui est sortie au Japon en 2017 et chez nous en 2018. C'est toujours en cours avec 9 tomes et au dessin et au scénario c'est Sugishita Kiyomi. Et donc là on va être sur un seinen mais plutôt tranche de vie pour le coup.
OK.
Donc on va pas avoir de violence, ça va plutôt être du contemplatif un petit peu. En fait, on va suivre Keitaro Amagi, qui est un jeune homme passionné par la faune abyssale. Donc ces animaux des fonds marins dont on ne connaît pas grand-chose encore. Et donc enfant, son père lui a transmis cette fascination pour ces mondes mal connus. Devenu adulte, il répond alors tout naturellement à une embauche pour devenir simple balayeur au tout nouveau Magmel Deep Sea Aquarium. Ce gigantesque complexe sous-marin vient d'ouvrir et offre à ses visiteurs une découverte inédite de la faune sous-marine à 200 mètres de profondeur. Donc la passion de Keitaro l'emmènera sur différents chemins inattendus au service du Magmel. Et donc on va suivre son quotidien en tant que balayeur de cet aquarium.
Et c'est pas un peu chiant?
Eh ben non, pas du tout. Mais franchement, j'ai adoré, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer. Parce qu'en fait, on apprend plein de choses et c'est très bien documenté. C'est-à-dire que tout ce qu'on lit, c'est vrai. Donc c'est-à-dire qu'on va découvrir des animaux qu'on ne connaît pas du tout, donc leurs caractéristiques et tout ça. Mais j'avais un peu peur de ça, je me suis dit, bon, peut-être que ça va être un peu ennuyant et tout ça. Mais en fait, ce petit jeune Keitaro est assez intéressant, parce qu'en fait c'est un petit garçon, c'est un petit jeune homme très timide, mais par contre qui est fasciné par ça. Alors dès qu'il va commencer à en parler, à avoir ça, bah là il va devenir hyper intéressant, hyper enthousiaste, les yeux qui vont pétiller vraiment de savoir et d'envie de partager. Et du coup, on va voir son quotidien de ce qui se passe avec les personnes qui viennent voir. Donc, il va faire des rencontres avec les gens qui viennent dans l'aquarium. On va découvrir des nouvelles espèces. On va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Il va commencer à se mêler avec les autres employés de l'aquarium. Donc, il y a quand même toute une vie qui se fait, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est une tranche de vie, au final. On va vraiment suivre son quotidien et tout ce qui gravite autour. Et petit à petit, il va commencer à en faire un peu plus que balayer, forcément. On va commencer à voir qu'il connaît pas mal de choses, ce jeune homme, quand même, finalement, et tout ça. Donc, il va évoluer, on va le sentir évoluer. Là, c'est comme ça un petit peu que se termine le premier tome. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer, là. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mon fils m'en avait parlé il y a de ça un moment, parce que je l'ai depuis longtemps dans ma palle, et il m'a dit, papa, faut que tu lises, c'est génial. Mon fils,
il avait
12 ans, et franchement, il avait raison. Le dessin est assez clair, il est simple et très propre, donc ce qui permet vraiment de bien suivre, on n'est pas perdu. Il a un petit côté shoujo sur les visages, ce qui est assez surprenant, parce que moi j'ai moins l'habitude d'en lire, avec ses grands yeux et puis de temps en temps les petits éclats, petites paillettes qui sortent quand il commence à parler de certaines choses et tout. Tout en ayant ce côté quand même seinen un peu mature sur la tranche de vie. Donc on sent qu'il y a une histoire par rapport à son père, parce qu'il a priori a disparu, son père, qui lui travailler a priori dans les abysses. Donc on va le suivre et j'ai hâte de voir la suite et je trouve vraiment que c'est bien documenté sur la façon dont il nous explique ces espèces et sans que ce soit chiant. Voilà, clairement on n'a pas du tout de lire un livre de SVT de universitaire ou collégien ou quoi que ce soit. Donc vraiment super intéressant, moi je recommande clairement. Et je vais lire la suite rapidement parce que j'ai les autres tomes à la maison qui m'attendent et je pense que je vais les enchaîner assez vite.
Il y a combien de tomes au total, tu sais ou pas?
Pour l'instant, il y en a 9 et c'est toujours en cours. Et on a rattrapé la parution japonaise.
Ok, donc là, faut attendre au fur et à mesure.
Voilà, faut attendre.
Faut le mériter.
Ils sortent pas très souvent. C'est pas un rythme de parution très élevé, mais je pense pas que ce soit trop gênant pour ce genre d'œuvre qui est pas ultra dynamique, ultra rythmé, où on va suivre sa vie, donc du coup d'avoir un peu d'attente, je pense pas que ça soit trop gênant non plus.
Ouais, on nous laisse pas sur des cliffhangers.
Non, on sait juste qu'il y a des choses qui évoluent dans sa vie, donc on s'arrête à un certain moment, on a envie de savoir ce qui va se passer et tout ça, mais ça reste une tranche de vie malgré tout. Cool.
On projette aussi ce qui se passe en dehors du Magmel, enfin de
alors un petit peu avec les notions avec les pêcheurs. Il y a ça qui commence à être abordé, donc je pense qu'on va avoir les problématiques de l'homme par rapport aux océans aussi qui va être un peu abordé à mon avis. Donc parce que là on a à un moment donné cette problématique-là avec un pêcheur qui attrape un animal des abysses et du coup on apprend des petites choses là-dessus aussi. Il y en a qui les rejettent directement, des fois ils sont blessés, bon, enfin bref. Et du coup je pense que ça va partir aussi un petit peu là-dedans en plus.
Ok, il y a une gestion de l'environnement sans pour autant être dans l'écologie en tant que telle pour l'instant.
Pour l'instant. Tout à fait. Je pense que ça va nous alerter, à mon avis, sur certaines petites choses, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas ce côté-là. Et on ne sent pas que c'est fait pour être une œuvre écologique, en tout cas.
Okay.
Mais plus pour permettre d'en apprendre sur cette faune qu'on ne connaît pas du tout, quoi, en fait, et qui existe. Donc, c'est vrai, je tiens à préciser que tout ce qui est mis là-dedans, c'est véridique.
C'est documenté.
Le calamar géant, ils expliquent exactement. Le sorte de cloporte énorme là, j'ai plus son nom parce que ça a des noms un peu particuliers et c'est vraiment documenté et du coup c'est intéressant de voir qu'il y a des êtres comme ça qui vivent.
Et puis 200 mètres, on est vraiment très très bas. Moi ouais, je fais de la plongée.
Ouais, et sachant que là c'est les animaux donc on voit, c'est de 100 mètres à 1000 mètres.
Ah oui.
Donc les abysses ça descend très très bas.
Là où nous on peut pas aller. Non,
clairement c'est pour ça que ils disaient même à un moment donné au tout début, ils expliquent que il y a moins d'hommes qui sont allés dans les abysses que dans l'espace. Donc voilà, ça montre qu'il y a encore plein de choses aussi sur notre Terre à découvrir, je pense.
Et sous la Terre.
Et sous les eaux. Tout
sous les eaux.
Voilà.
Je te laisse redonner les références.
Ouais. Donc du coup, c'est Deep Sea Aquarium Magmel. C'est aux éditions Vega Dupuis. Et c'est dessiné et scénarisé par Sushishita Kiyomi.
Eh ben parfait. On n'aura pas le temps de refaire une autre pause musicale plus tard, je vais la faire maintenant. Comme ça, hop. Parce qu'après, on va passer sur une interview, une grosse interview, et puis on parlera d'autres choses. C'était Halloween, là, il n'y a pas longtemps, il y a 4 jours, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et bien, du coup, je voulais mettre de la musique d'Halloween, j'ai pas pu le faire, je vais le faire là, hein, avec Broken Peach, qui est un groupe qui fait principalement des reprises. Et là, ils ont fait une reprise, ils ont mixé Call Me de Blondie et I Was Made for Loving You de Kiss. Okay. En version reprise et je trouve que ça marche bien donc bon, on va s'écouter ça tout de suite. We'll be right back.
www.radio-g.fr.
Et oui, c'est l'adresse du site où vous pouvez nous rejoindre sur le chat. On vous écoute, vous ne nous parlez pas, mais on est là quand même. J'espère qu'au moins vous nous écoutez. De toute façon, même si vous ne nous écoutez pas, on est là quand même.
Voilà. Et puis, s'ils entendent ça, c'est qu'ils nous écoutent. Donc c'est plutôt bon signe.
Eh ouais. On peut faire des... C'est paradoxal. Bref, j'ai plein de projets d'émission. J'ai pas le temps. On va partir dans le noir avec Dark Souls. Dark Souls Redemption, publié chez Mana Books. On en parle avant l'interview ou après?
Après, plutôt.
Hein? Comme tu vois.
Ouais, je sais pas. Ouais, ça a pas d'importance. Écoute.
Eh ben, on va en parler après, du coup, l'interview de Julien Blondel, une interview qui a été réalisée à Cultissime. Je remercie encore les organisateurs d'avoir permis cette interview. Une interview extrêmement intéressante avec un Julien Blondel qui aux petits oignons. On se retrouve juste après.
Bonjour Julien Blondel, on est en direct de Cultissime. Merci de m'accorder cette interview. On va parler de Dark Souls Redemption qui sort aux éditions Mana Book, qui est tout récent, est sorti début juillet si je ne me trompe pas.
Il est sorti tout début juin, le 6 juin
début
je crois.
Juin. La première question que je vais avoir, c'est une question qui est, qu'on vous a sans doute déjà pas mal posée. Pour vous, c'est quoi une œuvre culte?
Oh, après, c'est une question qui est difficile parce qu'il y a des œuvres cultes pour soi et des œuvres cultes pour un grand nombre, pour voire pour tout le monde. La Joconde, c'est une œuvre culte pour tout le monde. Est-ce que ça l'était déjà pour Da Vinci quand il l'a faite? C'est intéressant comme biais. Moi, il y a des œuvres cultes qui sont cultes pour moi parce que j'ai grandi avec, ça m'a marqué. Et il y a des œuvres cultes type Dark Souls qui sont des jeux de référence qui ont marqué une rupture. Il y a eu un avant et un après. Ils ont créé un style de jeu et ils ont marqué les joueurs parce que l'expérience de jeu elle est unique, elle est forte. Et je pense que quand on combine plusieurs émotions, qu'on joue avec le format, que ce soit un roman, un film, il y a des films cultes, il y a des bandes dessinées cultes, des albums de musique culte ou des groupes, on touche les gens et on peut pas expliquer pourquoi ça touche les gens. C'est pas une question de qualité, une question de talent, c'est une question de rencontre, je pense, à un moment donné.
Et est-ce que c'est nécessaire, en fait, quand on veut faire une adaptation, d'être fan ou au moins de considérer cette œuvre-là comme culte? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est le cas pour Dark Souls pour vous?
Ah, je vais peut-être surprendre, mais je pense pas. Je pense au contraire que plus on est fan, plus on a tendance à être respectueux, et que en adaptation, on doit accepter de trahir quelque chose. Une œuvre qui a été pensée, écrite par un ou plusieurs auteurs, des autrices pour être un livre, par exemple, ou un film, elle est pensée sur un format. Et si on l'adapte dans un autre format, on va forcément trahir quelque chose. On va devoir représenter un univers, refaire découvrir des personnages, et on n'aura pas forcément la même démarche que les auteurs d'origine, et on va devoir recommencer le travail à zéro avec une contrainte forte qui est que les gens la connaissent déjà, cette œuvre, pour même le nom, ils l'attendent, ils projettent des choses, et on doit quand même leur faire redécouvrir quelque chose de nouveau. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de travailler en adaptation sur des œuvres qui sont cultes pour moi, comme Elric de Michael Moorcock, qui m'a fait découvrir la Dark Fantasy, qui m'a amené à Dark Souls, qui est aussi un héritier d'Elric, un jeu de Dark Fantasy. Et j'ai aussi travaillé sur Conan de Howard, dont je suis absolument pas fan. C'est pas mon genre de littérature. C'est des épisodes qui se suivent sans fil rouge, des aventures. Et je pense que le fait de découvrir avec un regard un peu critique, sans être aveuglé par l'admiration qu'on a pour une œuvre, ça aide aussi à faire des choix un peu plus rationnels sur quelle va être la meilleure introduction, quel va être le meilleur rythme pour que les lecteurs découvrent ce roman en bande dessinée, par exemple.
Et du coup, quand on fait un travail de préparation comme ça, qu'on soit fan ou pas, est-ce que c'est important de s'immerger dans la globalité de l'œuvre existante, alors que ce soit Howard, Moorcock ou même Dark Souls, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, pour bien comprendre les codes et pouvoir peut-être un peu mieux les trahir dans l'adaptation?
Ouais, je pense que c'est exactement ça. T'as dit, c'est essentiel. Pour bien trahir, il faut vraiment comprendre. Il faut savoir ce qu'on trahit. Si tu sors une œuvre d'un contexte, par exemple une époque, tu vas forcément perdre quelque chose qui résonne avec le contenu de l'œuvre. Je prends l'exemple d'Elric, qui a été écrit à une époque dans les années 60, sur fond de déclin de l'Angleterre, et tu retrouves des parallèles entre l'histoire de l'époque, son auteur qui est adolescent, jeune à l'époque, et qui met en scène l'histoire d'un peuple qui vit ses dernières heures. Donc il y a un écho. Si tu comprends pas ce parallèle-là, et que tu t'attaques uniquement à l'adaptation du récit, de l'œuvre, il te manquera une dimension, je pense. Dark Souls, ce qui va le caractériser, c'est que c'est un jeu dans lequel tu découvres l'histoire passée toi-même par des détails dans les décors, dans les objets, mais on ne propose pas d'histoire, de scénario proprement parlé. On te laisse découvrir le monde toi-même, et ça, c'est ce qui fait Dark Souls, entre autres. Adapter, c'est essayer de restituer ce côté découverte, mystérieux, l'ambiance gothique sur un autre format. Peu importe que l'histoire soit extrêmement fidèle ou non, c'est retrouver ce qui fait le sel, le cœur, vraiment, de l'œuvre d'origine. Donc, il faut bien la comprendre, pas forcément pour la trahir, c'est un mot qui est un peu négatif, mais pour la réinterpréter, la refaire découvrir, la reporter à connaissance sur un autre format. Ouais.
Ok. Et dans le cas de Dark Souls, alors je connais pas suffisamment les jeux pour pouvoir en parler, mais il y a une cosmogonie, il y a beaucoup d'éléments en fait qui sont déjà existants. C'est dur de se les approprier et de les distiller subtilement comme le jeu le fait.
Ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'on n'a pas les mêmes outils qu'en jeu vidéo, où on a de l'image, on a de la caméra, du son, on a des combats qui vont rythmer, on a des choses qui sont automatisées par le jeu et que nous, on doit intégrer dans une narration qui va être fixe, qui va être figée, avec des personnages qui vont se parler, qui vont avoir des émotions, des expressions de visage. Donc on a d'autres outils. C'est comme si tu devais refaire le même plat qu'un chef mythique, 3 étoiles, avec d'autres ingrédients ou des ingrédients qui ne s'adaptent pas à ton assiette ou à ton four et machin. Donc on essaie de retrouver le goût, le parfum, avec d'autres outils, on va dire. Sur Dark Souls, la principale difficulté, c'était de rendre accessible à des nouveaux lecteurs qui n'ont pas joué au jeu un univers qui était attendu par des lecteurs et des joueurs qu'ils connaissent par cœur. Et on a essayé de trouver un biais pour que l'héroïne de l'histoire redécouvre le monde en même temps que les lecteurs. Les nouveaux lecteurs découvrent un univers, les joueurs en redécouvrent un nouveau en même temps que l'héroïne. C'était ça notre biais pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité et retrouver cette dynamique de qu'est-ce qui s'est passé avant. Elle recherche des souvenirs et les lecteurs et les joueurs vont trouver des clés de compréhension d'un monde passé.
Et justement, dans ce cas de figure-là, est-ce qu'on tient fortement compte de la fanbase existante ou est-ce qu'on se dit, bah tiens, je veux plus avoir de nouveaux lecteurs ou vraiment trouver l'entre-deux est difficile ?
C'est important de savoir pour qui on écrit, que ce soit de la littérature jeunesse ou que tu fasses un film ou un divertissement. Tu penses à ton public pour voir comment ça va être reçu. Miyazaki, il fait des dessins animés pour des filles de 11 ans et demi. Il a une démarche extrêmement précise. Il tient compte de la façon dont ça va être perçu. Nous, on voulait à la fois rendre montrer que on avait compris cet univers. On peut pas trahir un jeu comme Dark Souls. Il y a des attentes, c'est un jeu qui est mythique, on est dans cultissime, c'est typiquement un jeu qui est cultissime. Et en même temps, on voulait pas non plus donner uniquement aux joueurs ce qu'ils attendent. Parce que c'est pas Dark Souls, ça. Dark Souls, on voulait prendre à contre-pied et tout ça. Et on voulait pas non plus que les lecteurs qui cherchent une histoire de Dark Fantasy en manga, il y en a pas tant que ça, au final. Surtout pas par une équipe française.
Déjà encore plus.
Ouais, on est ravis de pouvoir travailler sur une licence aussi culte. Parce que ça met aussi un coup de projecteur sur le manga français, où il y a énormément d'auteurs, d'autrices qui bossent depuis des années et qui ont du talent et des histoires folles à raconter. Donc, on est ravis de ça, mais on voulait pas non plus en faire un fan service. On voulait en faire une œuvre de Dark Fantasy, Dark Souls, avec une histoire originale, inédite, et les Apogées nous ont donné une carte blanche pour créer notre lore à nous, notre histoire à nous. Et on est ravis non seulement que ça leur ait plu, mais qu'ils attendent la suite avec impatience, visiblement, même au Japon.
Parfait. Et justement, comment ça se co-créer, on va dire, ce jeu-là. Est-ce que c'est Julien Blondel qui fait le scénario et qui dit à Shonen, voilà comment je le vois, et on a les équipes de Dark Souls qui disent, nous, on aurait bien vu un truc comme ça, ou est-ce que il y a full carte blanche et où il y a peut-être du ping-pong entre chacun.
Alors, avec Shonen, c'est une collaboration parce que on a chacun notre domaine, notre compétence. J'aurais rien à apporter à Shonen en termes de dessin. Et je pense qu'il me fait confiance sur la façon de dérouler le scénario. Mais entre les deux, rien que déjà tous les deux, on a un échange permanent sur le storyboard, la narration par le dessin, le découpage des planches, le design, les nouveaux designs de créatures, de personnages qu'on veut mettre en scène, les décors. Ou des fois, c'est un dessin, un croquis qui va faire. Je vais trouver ça tellement intéressant et je sens qu'il a envie de dessiner ce personnage ou ce décor. On va changer le scénario pour intégrer ça dans l'histoire. Il faut qu'il y ait un plaisir, un échange. Je pense qu'on a chacun un gros respect du travail de l'autre. Donc nous, on a cette collaboration à deux et il fait le travail d'un studio entier tout seul. Donc gros respect pour Shonen, ce qu'il fait au dessin sur Dark Souls, c'est hallucinant. Et sur la partie collaboration entre la team éditoriale française et les Japonais, ça se passe entre éditeurs. Comme toutes les négociations sur des licences, où ce qu'on a proposé de faire sur Dark Souls, à l'origine, c'est les éditeurs qui se sont dit, tiens, si on faisait une création de manga sur une licence, tout ça, le nom Dark Souls est sorti et ils nous ont proposé ce projet. Et donc depuis, on a travaillé pour proposer une histoire, des designs, des planches pour montrer le rendu que ça aurait. Ça a été validé par les ayants droit japonais, par Bandai Namco. Et depuis, on a négocié cette carte blanche et on a leur confiance. On a sorti un premier tome, il est sorti au Japon. Il a été en rupture au Japon assez rapidement, comme en France. Donc on est vraiment sur, je pense, là sur le tome 2 qui sort bientôt. On a la confiance des Japonais, ils n'interfèrent pas dans l'histoire. Ils reçoivent les chapitres un par un, les storyboards un par un, et ils valident les étapes. Et ça va de plus en plus vite et ils nous demandent le chapitre suivant parce qu'ils sont impatients. Je pense.
Est-ce que c'est dur du coup de s'adapter à ce rythme-là japonais ou enfin il l'impose peut-être pas forcément parce que ça se travaille pas de la même manière en studio japonais qu'en France peut-être.
Non, c'est différent, mais le manga a cette particularité d'avoir une promesse de parution. En franco-belge, en BD franco-belge, on essaie de tenir cette promesse. C'est pas souvent le cas. Parce que il n'y a pas non plus d'impératif. Le Japon, ils ont intégré cette contrainte dans le format manga de prépublication, de périodique avec 10-15 pages par semaine ou un chapitre par mois, par exemple. Nous, on a attaqué ce projet à la française en sachant que c'était une licence japonaise, qu'il y avait très fortes chances que les Japonais achètent les droits pour le traduire. Et ça a été le cas où il est sorti deux jours avant la version française au Japon. Et depuis, oui, ils vont commencer la prépublication du tome 2. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de façon de travailler. On s'adapte au fait que le manga ait du succès et qu'il soit diffusé au Japon. Et pour ça, on va essayer de tenir le rythme de prépublication japonaise. Alors, ce qui est un travail colossal, hein, c'est deux tomes par an. C'est une trentaine, quarantaine de pages par mois à produire. C'est ce que font déjà beaucoup de mangaka français pour coller à ce rythme et à cette production. Et à la différence des studios japonais, Shonen, il est tout seul et il fait ce travail seul et c'est vraiment impressionnant.
Mais c'est quelqu'un qui est autodidacte à la base, qui s'est déjà démené pour arriver à avoir un niveau graphique que j'avais jamais vu en fait sur un manga comme ça, et c'est assez impressionnant. C'est...
Oui, carrément, il est arrivé au manga, comme il le dit, par hasard. Et on voit à quel point il est fait pour ça. Il a intégré à la fois les codes et il a un recul sur son travail. C'est un artisan. Il a un côté artiste, il a un univers à lui, il a des histoires à raconter, mais il a une lucidité sur son art, qui est une lucidité d'artisan. Il a une régularité, il s'améliore, il se donne des challenges pour essayer de tenir ces délais-là. Et c'est un genre qu'il avait jamais expérimenté. Et pour moi, c'est tellement évident qu'il était fait pour la dark fantasy, entre autres. Le résultat, je le dis juste parce que je suis fan de son travail, quoi. C'est d'un niveau de qualité que je trouve assez exceptionnel, ouais.
Et cette série, on a déjà une durée de vie annoncée en nombre de tomes. Il y a peut-être un après en fonction du succès.
Ah, il y aura forcément un après, mais on a signé pour un arc de 5 tomes dès le début.
Okay.
Ce sera une histoire finie en 5 tomes, quoi qu'il se passe. Le fait que ce soit un succès nous fait pas changer d'avis là-dessus. On va pas rajouter des tomes et des tomes. On va essayer de les faire le mieux possible et le plus vite possible déjà. Et après, que ce soit qu'il y ait une suite à Dark Souls en manga ou pas, que ce soit nous ou pas, on sera ravis de lire d'autres histoires dans l'univers tellement vaste de Dark Souls. Mais nous, c'est 5 tomes et le tome 2 devrait sortir soit en fin d'année, soit en tout début d'année prochaine. Ce qui fera entre 6 et 7 mois entre chaque album, et c'est déjà un gros challenge.
Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une autre œuvre culte que, enfin, vous en avez déjà adapté quelques-unes, hein, qui serait une envie, une bouteille à la mer en disant bah, j'aimerais bien adapter ça, si vous m'entendez.
Oh, j'ai la chance d'avoir suffisamment de discussions ouvertes avec mes éditeurs pour pouvoir discuter très sérieusement de projets. Il n'y a pas de bouteille à la mer, il y a vraiment des trucs complètement pas rationnels. J'ai eu la chance de travailler sur les Métabarons, sur Elric, sur Dofus, maintenant sur Dark Souls. Je suis intimidé à l'idée de m'attaquer à certains trucs qui pour moi sont cultes. J'aurais adoré faire la route de McCarthy à la place de Manuel Arsenet, qu'il l'a fait déjà certainement mieux que je l'aurais fait, mais j'aurais adoré le faire. J'aimerais beaucoup faire Antigone de Sophocle ou Danouille, ou les deux, parce qu'il y a des œuvres comme ça, moi, qui m'ont marqué à l'adolescence et que je pense les jeunes iront pas forcément lire spontanément, alors qu'ils peut-être ils se la prendraient en pleine tête sur un format série télé ou un format manga ou BD. Il y a énormément de textes grecs, de textes de Shakespeare, ça fait vieux de dire ça. Mais en fait, toutes les histoires qu'on adore, de Star Wars à Game of Thrones, c'est Shakespeare avec des dragons ou Sophocle dans l'espace, quoi. Et il faut revenir à ça, à des choses très très pures, en les transposant, en les changeant peut-être d'époque, juste pour garder le cœur de ça, qui est, bah, pour Antigone, la révolte d'une adolescente contre une société qui lui empêche d'enterrer son frère. Voilà, c'est éternel comme histoire. J'aimerais beaucoup faire Antigone, j'aimerais beaucoup faire Ico, le jeu vidéo Ico, qui a été culte pour moi. J'aimerais travailler sur Silent Hill, essayer de reproposer une histoire dans des univers qu'on a déjà raconté tellement ou des tellement fortes, ouais.
Je ne vois pas quoi dire de plus. Effectivement, on a l'impression que toutes les histoires, enfin, c'est ce qu'on dit, ont déjà été écrites. Après, est-ce qu'on n'est pas perpétuellement en train de réadapter et de réadapter du culte, en fait?
Ouais, on peut être ravi de les relire à nouveau d'une autre façon. Donc travaillons là-dessus, ouais, et puis essayons de tout faire pour que l'envie de lecture des jeunes générations, elles trouvent de quoi lire, faites pour elles, écrit pour eux. Et ça, c'est un combat d'une vie. Donc écrire pour faire lire, il y aura rien de meilleur, je pense.
Bon, on va se quitter sur ces mots-là. Merci Julien Blondel.
Avec plaisir, merci.
Radio G, 101.5 FM.
Je remercie encore Julien Blondel de m'avoir accordé du temps dans cette interview qui était très 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 intéressante. Je pense que si on avait eu beaucoup plus de temps, on aurait eu une interview de 2 heures, hein, sans trop de problèmes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé aussi. Avec Fabien, on a lu Dark Souls Redemption. Je l'avais lu avant l'interview, Fabien l'a lu après.
Tout à fait.
Puis on va aussi vous donner notre avis de manière très objective sur ce manga. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu
ouais,
veux que...
je veux bien.
Allez, vas-y, plaisir. Fabien.
Donc déjà, moi, je connais pas la licence Dark Souls, le jeu vidéo, je ne connais pas du tout. J'aime beaucoup tout ce qui est Heroic Fantasy, Dark Fantasy. Donc je me suis dit, ça devrait sûrement être pour moi. Donc du coup, aux premières pages, déjà j'ai vu l'ambiance, je me suis dit, ah, plutôt sympathique. Donc non, globalement, j'ai beaucoup apprécié l'œuvre. Les dessins des personnages et des monstres sont vraiment très 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 beaux. J'ai juste eu, moi, un tout petit peu de mal à m'adapter un peu. Je sais pas, peut-être la différence que j'ai trouvée entre décors et personnages et monstres. Mais par contre... voilà, on se retrouve dans une ambiance de Dark Fantasy comme j'aime. Donc, très très cool. Après, ça reste pour moi quand même un thème introductif. C'est-à-dire que ça nous place un peu l'univers et tout ça. Et j'ai très envie de lire la suite pour voir là où ça va nous amener et avoir l'étendue un peu de ce lore. Parce que on sent quand même que ça peut être assez riche au niveau de tout ce qui peut être fait. Alors après, comme tu me disais, il y a 5 tomes de prévu. Donc, est-ce que ça va être suffisant pour combler toutes mes attentes à ce niveau-là? Je sais pas. Mais en tout cas, pour tous ceux qui aiment la dark fantasy, y a pas de raison de pas du tout, de pas aimer, quoi. C'est, ça coche toutes les cases.
Effectivement, je partage complètement ton avis là-dessus. C'est déroutant au départ parce que, un peu comme toi, je connais juste From Software, les œuvres de From Software et les Dark Souls sans y avoir vraiment joué. Je sais que ce sont des jeux en fait où la narration, où on apprend l'histoire par l'environnement. Et j'avais peur en fait que ce soit pas facile à faire en manga. Et ben, on se pose beaucoup de questions et on a pas mal d'infos. Je trouve qu'en termes de dark fantasy, ça marche très très bien. Le style de shonen est juste assez dingue. Je le dis là comme ça et je le dis, je pense à chaque fois, mais quand je vois que c'est quelqu'un qui a appris à dessiner tout seul et quand on voit certaines des pages, c'est un reproche que je disais que je ferais peut-être à ce manga-là, c'est que des fois on a des grandes pages avec des gros monstres en travers de la page, et on a juste envie en fait de casser la tranche du livre pour avoir vraiment toute l'envergure du livre. Donc Manabooks, si vous voulez faire une grande version, écoutez-moi, je veux une grande version de Dark Souls Redemption. Non, mais ça marche vraiment super bien. Peut-être un petit bémol, mais c'est juste histoire d'être chiant. Je trouve qu'au début, l'héroïne parle peut-être un peu trop. Il y a plein de choses qu'elle fait qu'on aurait pu juste nous laisser deviner plutôt que de la laisser soliloquer toute seule. Ça fait une redite, ça, soliloquer toute seule. Parce que quand tu soliloques, t'es déjà tout seul.
Tout à fait.
Donc plutôt que de laisser l'héroïne soliloquer, enfin voilà. Mais on a des créatures qui font ultra peur alors qu'elles nous tendent la main. Enfin, alors, c'est pas pour les enfants, hein, je précise.
Non, c'est pas pour les enfants. Jeune ado, parce que ouais. Et encore que je trouve que il y a de la violence, mais elle est pas. Il y a pas d'effusion à mort de sang ou ce genre de choses. J'ai pas trouvé. Après, ça m'a. Mais par contre, ça reste de la dark fantasy, donc de toute façon, c'est sombre. Il y a du combat, il y a du monstre.
Il y a des morts.
Il y a des morts, ouais. Clairement. Donc faut jeune ado. Ouais, jeune ado, je pense que ça passe bien.
Ouais. Eh ben, je vois pas quoi dire de plus. Hein. Allez-y. C'est une série qui prendra pas trop de place sur les étagères, parce que 5 tomes, ça se fait tout à fait bien. Si vous êtes fan des jeux de From Software, allez-y. Vous serez pas dépaysé. Hein. Ça va vraiment vous plaire. Si vous ne connaissez pas les jeux From Software, ça peut vous donner envie de jouer. Moi, j'ai vraiment envie en fait de redécouvrir des univers comme ça. Vous laissez pas décourager par la difficulté qui est annoncée. Je pense que c'est juste de l'entraînement à avoir. C'est des jeux qui sont censés être assez durs et assez punitifs, mais ça marche trop bien. Enfin.
En tout cas, oui, ça donne envie de tester rien que pour l'univers, parce que moi, c'est un genre d'univers que j'aime bien. Et une fois que j'aurai fini Baldur's 3 un jour, peut-être que je me mettrai à Dark Souls.
Non, mais voilà. Et puis les personnages, ils ont des armures, ils ont des styles. L'héroïne, elle est intéressante aussi à découvrir. On ne sait pas qui elle est, on se doute qu'il y a des trucs, mais
ce qu'on disait. En fait, c'est un tome introductif. Ça donne envie d'avoir la suite pour se faire vraiment un avis encore plus concret, quoi. De savoir vraiment est-ce que ça va aller vers quelque chose qui nous plaît vraiment ou pas. J'espère que oui, mais en tout cas, ça donne vraiment envie.
That's all, folks. Allez, on se quitte sur cette critique du Dark Souls Redemption chez Manabooks de Julien Blondel et Shonen. Merci Fabien d'avoir été avec moi ce soir.
Merci à toi.
Et puis on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles chroniques. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, mais je ne peux de ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Batman. Nous, un petit schtoum.
Batman. Trop vite. Venez par chez toi ici.
Justement, les touristes de mort.
Modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.